sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves.
Voilà. Donc c'est Tiffendi, une actrice féministe, écrivaine, et qui a inventé une langue, la féminine universelle. Elle va tout vous expliquer et je vous en reparle juste après.
C'est une langue que j'ai inventée qui s'appelle la féminine universelle. Je féminise toutes. Ça m'amuse énormément et il y a de plus en plus de femmes qui s'en emparent en plus de cette féminine universelle. Donc je suis le cauchemar des académiciens. Je vais vraiment être hyper harcelée. Je m'en fous. Tiffendi, un D sans point parce que ce n'est pas une abréviation. C'est un positionnement politique contre les patronymes. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'avait fait Malcolm X à sa façon. Il s'appelait Little. Quand il est né, c'est le nom qu'il a eu. Et en fait, ce n'était pas le nom de sa famille, c'était le nom des esclavagistes qui avaient réduit en esclavage sa famille. Et donc, il est parti en Afrique chercher le nom de ses pères, puisqu'il ne s'agissait pas de chercher le nom de ses mères, n'est-ce pas ? Et il ne l'a pas trouvé. Et quand il est rentré, il a mis une croix pour signifier qu'il refusait de porter le nom des esclavagistes de sa famille. De la même manière, si je prenais le nom de ma mère, en fait, ce serait le nom de son père et de ma grand-mère et ainsi de suite. Donc les femmes, en tout cas, dans les pays comme la France, n'ont plus de nom. Les hommes les leur ont volé. Donc je refuse de porter un patronyme. Et j'ai gardé un D comme Andrea Dworkin ou Christine Delphi, qui sont deux grandes militantes féministes que je vous conseille de lire.
N'importe quoi. Utiliser avocate pour les femmes qui exercent ces professions et les quelques hommes, voilà, qui l'usurpent.
D'habitude, on parle au masculin universel avec cette règle terrible du masculin l'emporte sur le féminin qui nous date du XVIIe siècle. Et donc, moi, je m'inscris en porte-à-faux et j'ai envie de faire entendre à quel point, d'habitude, tout est masculinisé dans nos façons de parler. Et quand on parle de manière oppressive, on pense aussi de manière oppressive et on agit, du coup, dans l'intérêt des seuls oppresseurs. Et donc j'ai envie qu'on entende ce que ça pourrait être de toute féminiser pour voir. Donc on imagine que la féminine l'emporte sur la masculine, que la féminine est aussi la genre neutre, la belle arnaque. Donc on va parler des droits de la femme, mais ne vous inquiétez pas, mes petits masculinistes, c'est avec une F majuscule. Donc je mets pas tout à la féminine, mais je mets en effet énormément de choses à la féminine, notamment les mots que l'on aime, comme la clitoris, la vagine, la féminisme. Tout ce qui nous embête un petit peu, on peut le mettre au masculin, tant que ce sont massivement les hommes qui violent les femmes de manière massivement répandue et impunie, je considère qu'on peut un peu mettre tout ce qui nous embête au masculin, donc le verru plantaire, le peste, enfin, des trucs du genre. Et au départ, c'était en écrivant ma première pièce de théâtre, qui continue à tourner d'ailleurs, qui s'appelle Conte à rebours. Je m'étais mise comme mission de remettre à l'endroit les contes de fées de manière féministe. Or, la première phrase des contes, c'est « Il était une fois ». J'ai eu un problème de page blanche puisque je ne pouvais pas écrire le premier mot. Je me suis dit « Mais qui est ce il ? Qui est ce mec qui veut commencer mes contes ?» Et comment est-ce que je pouvais créer une œuvre féministe avec une langue qui détruit les valeurs que je porte.
Qui était ce il, ce mec qui comptait pas des U en tête de mes contes ? Il me coupait les ailes, rendez-vous compte.
Ça m'a amené à créer non pas une écriture inclusive, mais une écriture exclusive, en fait, exclusivement pour les femmes. J'ai envie qu'on s'entende enfin exister, nous les femmes, dans nos propres pensées. Parce que si on n'existe pas dans nos propres pensées, on ne peut pas penser nos propres intérêts. Et donc si dans chaque phrase qu'on pense et qu'on dit est inscrite la domination des hommes et contre les femmes, alors ça veut dire que c'est dans chaque pensée qu'on formule, en fait. Et qu'on n'arrive même pas à penser notre émancipation.
Le masculin l'emporte dans la grammaire. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Point !
Pour pour moi, le féminisme, c'est la combat central. Cette oppression patriarcale est celle qui permet toutes les autres. C'est-à-dire que si déjà la moitié de l'humanité, on l'a sortie du champ d'être des vraies personnes, eh bien après, oui, on peut faire ça avec n'importe quel peuple sur la base d'une couleur de peau, sur la base d'un endroit géographique, sur la base d'un handicap ou d'une capacité. Après, tout est possible. La féminisme, c'est l'idée radicale selon laquelle les femmes sont des êtres humains. C'est vouloir l'abolition de l'ensemble des violences et des discriminations, quelles qu'elles soient. On n'en garde aucune, même des violences que soi-disant les opprimées, elles sont super d'accord. Non, ça, le consentement des opprimés à leur propre oppression, il est nul et non avenu parce qu'il est contraint par l'oppression même, il est même une preuve qu'on est opprimé. Donc oui, l'objectif, c'est ça, c'est de vivre en fait en paix, sans violence, sans discrimination. Donc si vous êtes d'accord avec ça, vous êtes féministe, bienvenue.
Maître, ce serait terrible pour eux. Finalement, ce serait les sexualiser. Les pauvres. Ce serait les réduire à leur corps. Et ça serait terrible.
Je ne suis pas sûre que ce soit aux femmes nécessairement d'inclure les hommes dans le combat. C'est-à-dire que déjà, il y a un présupposé où le féministe devrait forcément être inclusif. Qui a décidé ça? J'exclus totalement les violeurs. Après, les hommes ont des choses à faire. Ça, c'est clair. Plein de choses à faire. Et d'ailleurs, j'aimerais que vous commenciez à vous bouger le tronc. Vous avez tellement plus de marge de manœuvre que nous pour changer le monde. Mais en vrai, nous, en tant qu'opprimés, on a une marge de manœuvre ridicule par rapport à vous. Déjà, on est tout en train d'essayer de survivre aux violences qu'on a subies et c'est extraordinairement compliqué tous les jours. Ensuite, quand on parle, c'est du vent, ça ne compte pas. On s'en fout. Vous l'avez déjà vécu, cette scène, où une femme féministe, brillantissime, dit un truc merveilleux, et puis là, personne n'écoute, ou alors on lui dit qu'elle est hystérique, et puis il y a un type qui passe derrière, qui redit la même idée en moins bien. Et là, tout le monde fait « Ah, mais t'as raison, Jean-Paul !» Voilà, ça, c'est un truc qui arrive tout le temps. Et donc, vous, vous avez une marge de manœuvre gigantesque. Quand vous parlez, on vous écoute, on vous prend en compte. Quand vous êtes dans votre entreprise et qu'il y a Jean-Paul, le masculiniste, qui fait encore une blague misogyne, si par contre, vous, en tant que mec, vous vous levez et vous dites « En fait, Jean-Paul, on n'en peut plus. Ça, c'est stop. Donc, ton sexisme, ton racisme, tes merdes, c'est terminé. T'as aucun intérêt à faire ça. Et tant que tu continueras à faire ça, en fait, on bouffera même plus à ta table, gars. Le jour où ils auront plus intérêt à être des agresseurs, ils vont cesser de l'être. Aujourd'hui, être des agresseurs, ça sert les hommes.
Nous, on ne nous appelle pas mesdemoiselles. Voilà, ce mot est tombé en désuétude, mademoiselle. Ça veut dire ma petite pucelle, quand même, étymologiquement. Hein, oui, hein, c'est gênant, hein. Ouais, d'accord.
Le féminisme, c'est nécessairement radical. C'est-à-dire, c'est enlever le mâle à la racine, n'est-ce pas, pour reconstruire une autre société. Du coup, si tout le passé a été patriarcal, bah par conséquent, toutes les traditions la sont aussi. Et donc, vouloir les garder sans rien y toucher, bah c'est garder le patriarcat sans rien y toucher, hein, ça c'est sûr. En fait, c'est pas les féministes qui font la guerre aux hommes. Ce sont les hommes qui font la guerre aux femmes. C'est la raison pour laquelle on a des champs de cadavres. Elle manque sur la terre féminicidée des centaines de millions de femmes, c'est énorme. Donc c'est une guerre multimillénaire et mondiale que les hommes mènent contre les femmes. Les féministes, elles résistent.
Donc là, je suis obligée de vous faire un commentaire pour vous expliquer le contexte de l'audio qui va suivre. Cette émission... Enfin, le podcast que vous écoutez a été enregistré en direct le mercredi 2 mars, en direct, et j'ai eu des énormes problèmes techniques pendant les 20 premières minutes. Voilà, je ne vais pas vous expliquer pourquoi. En tout cas, en plus de ça, je venais de vivre un choc émotionnel très fort. Donc, l'émission en direct du 2 mars a été terriblement compliquée. Et à un moment, j'ai fait une pause musicale et pendant la pause musicale, le téléphone a sonné. D'habitude, je le décroche jamais et cette fois-ci, étant perturbée, j'ai décroché. Une femme m'a parlé et m'a reproché pendant mes problèmes techniques d'avoir dit le mot putain et ça s'est entendu au micro. Elle m'a dit que j'étais vulgaire et elle s'est dénommée elle-même une travailleuse du sexe. Donc le passage qui suit, quand j'ai repris le direct, j'ai répondu... à chaud, donc avec toute l'émotion et le fait que c'était compliqué tout ça pour moi à ce moment-là, je lui ai répondu comme j'ai pu et en espérant qu'elle continuait à m'écouter, alors que c'était vraiment pas très facile à gérer à ce moment-là, vu tous les problèmes que j'avais eus et toutes les perturbations d'émission que j'avais eues.
donc je vous laisse écouter ce que j'ai dit à ce moment-là et juste après, je compléterai un petit peu à froid.
Pendant que j'ai cafouillé, j'ai dit quelque chose que je regrette d'avoir pu dire. J'ai dit putain à l'antenne et je pense que ça s'est entendu. Voilà. Et en fait, je regrette évidemment de dire putain à l'antenne parce que c'est un mot que je déteste entendre. Je sais que c'est une insulte faite aux femmes et à toutes les femmes. Et qui ramène les femmes à la condition du patriarcat, c'est-à-dire être maman ou être putain, ça, voilà. Mais donc en fait, je déteste ce mot, bien sûr. En plus, je suis abolitionniste en fait de la prostitution, voilà. Mais je suis colonisée moi-même par le patriarcat, comme toutes les femmes. Et depuis toute petite, on m'a inculqué ce mot alors que je savais même pas de quoi il s'agissait. Et du coup, je l'ai en moi instinctivement et il sort quand je panique, alors qu'en théorie, bien sûr que je déteste ce mot et je déteste l'entendre. Et quand je l'entends, ça me fait froid dans le dos et je supporte pas de l'entendre et je l'entends 1000 fois par jour. Et figurez-vous que pendant que je cafouillais pendant l'émission, une femme a appelé. Et j'ai pris le temps de répondre quand même, parce que même alors que c'est difficile de faire une émission en direct et de répondre au téléphone, et je voulais répondre pour dire je fais un direct, donc ne me dérangez pas. Et cette femme au téléphone m'a dit qu'elle était choquée parce qu'elle m'avait entendu dire putain, et elle m'a dit je suis une travailleuse du sexe et c'était très vulgaire et je suis choquée que vous ayez dit ça. Donc du coup, ça m'oblige à répondre à cette femme qui peut-être n'écoute plus maintenant, ou peut-être écoute, j'espère qu'elle écoute encore. Et je vais lui répondre que oui, elle a raison, donc je regrette ce mot-là. Je sais que c'est une insulte, mais ensuite, je voudrais dire à cette femme que le problème de ce mot, ça n'est pas le mot, ce n'est pas la stigmatisation des femmes, ce n'est pas ça le problème. En fait, le problème lui-même, c'est la prostitution, qui est une violence faite aux femmes et qui est en fait, je vais d'ailleurs en parler juste après, qui est en fait du viol tarifé, qui n'est pas un travail. Et cette femme s'est appelée elle-même travailleuse du sexe. Et je pense qu'elle pense que ce mot-là est un bon mot, que de dire travailleuse du sexe, j'imagine qu'elle se dit que ça la respecte, alors que putain, ça la respecte pas. Mais en fait, je voudrais lui dire que ce mot travailleur du sexe ne la respecte pas, et encore moins, et parce que c'est un mensonge, parce que la prostitution n'est pas un travail, et que c'est une violence, et que c'est du viol. Et que le problème de la prostitution, c'est la prostitution qui est une violence. Et ensuite, effectivement, cette extrême violence, le truc affreux du système patriarcal, c'est que quand cette extrême violence qui est faite aux femmes, eh bien, on la met sur les femmes, c'est-à-dire qu'on responsabilise les femmes de cette violence. Donc, on fait croire aux femmes prostituées qu'elles sont responsables et qu'elles sont consentantes à cette violence. Et c'est bien tout l'arnaque du patriarcat. Donc en fait, et donc la plupart effectivement des femmes en situation de prostitution sont convaincues que c'est souvent, la plupart du temps, elles sont en dissociation pour supporter la situation, en dissociation traumatique, et souvent elles se convainquent ou elles sont convaincues que c'est elles qui le veulent. Il se trouve que en fait je connais bien de quoi je parle et que je respecte et extraordinairement justement les femmes en situation de prostitution. Les abolitionnistes comme moi sont vraiment les personnes qui respectent ces femmes-là, au contraire du système prostitueur et des proxénètes qui utilisent ce vocable de travail et qui considèrent que c'est un travail. Et le système prostitueur ne respecte pas ces personnes-là. Et les utilise comme des objets de consommation pour les hommes. Voilà ce que je voudrais dire en deux mots à cette femme qui m'a téléphoné. Lui dire aussi que justement je suis une sœur de lutte, une sœur de lutte féministe, et que dans ma lutte féministe je suis en relation avec des femmes qui ont vécu la prostitution et qui luttent pour l'abolition de la prostitution qui ont réussi à se sortir de la prostitution, souvent au péril de leur vie, qui en subissent toujours des conséquences à vie, psychotraumatiques, et comment dire, qui se sont rendus compte pour en sortir que c'était une question de vie ou de mort, et puis qui s'appellent elles-mêmes les survivantes, et qui ont lutté et continuent à lutter pour l'abolition de la prostitution. Voilà, et je suis extrêmement concernée, extrêmement touchée. Tout ça me touche dans mes tripes. Donc en fait, quand je vous disais au début, cette émission n'est pas facile à faire en fait pour moi, parce que c'est pas une émission juste théorique, c'est une émission évidemment qui résonne dans mon vécu de femme. Et qui continue à résonner dans mon vécu de femme en permanence.
Donc pour compléter ma réponse, je repréciserai que travailleuse du sexe, c'est le vocable utilisé par le système prostitueur et qui fait croire par un discours inversif que travail redonnerait de la dignité, alors qu'en fait, si on appelle ça un travail, eh bien, ça voudrait dire que la prostitution n'est plus une oppression et qu'un proxénète deviendrait un manager, et donc les femmes en situation de prostitution n'ont plus aucun moyen de sortir de la prostitution. Donc pour répondre à cette confusion qu'on entend, qu'ils utilisent aussi donc toujours, c'est de faire croire que qu'il suffirait de mettre fin, que le problème principal serait de mettre fin à la stigmatisation des putes, et que la prostitution ne serait pas un problème. Eh bien, en fait, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La stigmatisation infligée à la, entre guillemets, pute est typique de la plupart des formes d'oppression. Il s'agit d'en rejeter la responsabilité sur les opprimés. On colle la honte aux victimes. On blâme la victime, faute de quoi nous pourrions apercevoir son agresseur et la réalité de ce qu'il lui fait. La prostitution, et ça, ce passage est très intéressant, donc c'est un texte que j'ai retrouvé donc d'une association abolitionniste que je mettrai en référence. Mais on entend souvent cette confusion, nous les abolitionnistes, on nous traite de puritaines. Eh bien, en fait, je vais vous expliquer que pas du tout, et que les personnes les plus puritaines sont justement les personnes qui font la promotion de la prostitution. Donc, la prostitution, en effet, tire son origine d'une vision puritaine de la sexualité qui associe celle-ci à la saleté, la honte et la culpabilité. La pornographie et la prostitution ont besoin du puritanisme pour créer l'impression d'une transgression de limites. Beaucoup de délinquants prostitueurs recherchent aussi la pornographie parce qu'ils y voient une sexualité sale et honteuse. C'est pourquoi les apologistes de la prostitution ont tort d'affirmer que son seul problème tient à sa stigmatisation. Parce que tant que l'oppression durera, la stigmatisation durera. Et nous ne parlons pas simplement de l'oppression qui prend la forme de la prostitution, parce que de la même façon, tant que durera la division des femmes en vierges ou putains, la stigmatisation demeurera aussi. Donc revenons aussi sur le syndrome vierge ou putain qui assigne donc les femmes à... Alors la division traditionnelle des filles et des femmes entre les rôles opposés de vierge, putain, est une forme efficace d'oppression sexiste. Elle atteint chaque individu, femme ou fille, et elle divise les femmes en tant que groupe. Cette dichotomie vierge, putain, a pour fonction d'assigner des limites à la liberté sexuelle des femmes et aux droits sexuels des femmes et des filles. Nous sommes toutes contraintes à jouer les funambules sur un fil tendu entre ces deux pôles. Être sexuellement extrovertie pour ne pas sembler ennuyeuse, mais si nous le sommes, risquer d'être stigmatisés comme salopes ou putes. La plupart des filles et des femmes essayent de composer avec ces pressions, au meilleur de leurs possibilités, mais en fait, quoi que fasse une fille, n'importe quel homme peut encore la traiter de pute, si le cœur lui en dit. Même une fille qui n'a jamais eu de rapport sexuel peut être qualifiée de pute. Revenons sur les insultes et le pouvoir. Les insultes sont une manière de blâmer des victimes pour un rapport de force qu'on leur inflige. C'est bien de cela qu'il s'agit, donc quand on utilise putain comme une insulte. Traiter des filles et des femmes de putes est un mode typique de harcèlement sexuel, qu'il ait lieu à la maison, à l'école, au travail ou lors d'une sortie. Les hommes n'ont que ce mot à la bouche pour désigner les femmes qui sont dans la pornographie ou la prostitution. Et pour un agresseur sexuel, cette insulte est souvent une façon de justifier sa supériorité et sa violence sexualisée. Tout comme les insultes racistes servent à justifier la violence raciste. Être victime. Dans notre société morcelée qui n'en a que pour les individus, il est bien sûr plus difficile de repérer de tels schémas. Pour couronner le tout, il y a aussi le mythe entretenu au sujet du statut de victime. Être une victime de nos jours est souvent dépeint comme le contraire de la force, comme une incapacité d'assurer. Ceci amène bien des personnes à fermer les yeux sur leur propre oppression, pour éviter d'être perçues comme une victime qui serait impuissante. Pourtant, le véritable contraire du statut de victime, c'est celui d'agresseur. Parler des victimes, c'est désigner la présence d'une oppression, cela ne concerne en rien les caractéristiques de la victime. Ces personnes peuvent souffrir à différents degrés, elles peuvent être fortes ou faibles et le sont souvent simultanément. Ou il peut s'agir de personnes opiniâtres qui font leur propre choix. Bref, se retrouver en position de victime n'est pas un trait de personnalité. Voilà, je trouve ce texte éclairant et c'est vrai que c'est un discours que j'entends souvent pour les personnes qui bloquent et qui ne comprennent pas l'abolition de la prostitution notamment. J'entends souvent cela, nous ne sommes pas des victimes, etc. Ou les personnes qui ne comprennent pas le féminisme. Voilà, donc je mettrai la référence de ce texte qui vient d'une association abolitionniste en référence du podcast.
Donc du coup, je vais passer au manifeste, justement, qui a été écrit donc, par des associations de terrain et des survivantes de la prostitution et qui agissent aux côtés des personnes prostituées. Et ce sont des associations, il y en a plein en fait, la plupart des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes sont abolitionnistes de la prostitution. Donc entre autres l'Amicale du Nid, Mouvement du Nid, Femmes pour le dire, Femmes pour agir, FACT-S qui est un ensemble d'associations, un collectif qui accompagne les personnes prostituées. Souvent je dis femmes prostituées parce que les hommes sont très peu nombreux dans la prostitution, donc comme Tiffany qui parle à la féminine universelle parce que ça nous soigne et qu'on ne nous entend pas nous les femmes. Eh bien, je dis souvent « femmes prostituées ». Désolée pour les quelques hommes prostitués que j'oublierai. Sachant que en utilisant la féminine universelle de Tiffen, mais sachant que les clients sont 100% des hommes. Donc, je préfère parler de femmes prostituées pour pas qu'on oublie que c'est une oppression des femmes par les hommes et qu'on entende ce féminin. Voilà, donc je vais vous lire ce manifeste. Maintenant. En tant qu'association de terrain et survivante de la prostitution, agissant aux côtés des personnes prostituées et association de lutte contre toutes les formes de violences sexuelles et sexistes, nous sommes témoins de la violence que les personnes prostituées et victimes de la traite des êtres humains subissent au quotidien et des conséquences éminemment destructrices de cette activité sur leur santé physique, psychique et sexuelle. Sous quelque forme que ce soit, nous constatons à quel point la marchandisation du corps humain est une atteinte fondamentale aux droits et à la dignité humaine. Pour construire une société ambitieuse d'égalité entre les femmes et les hommes, respectueuse de toutes et tous, protectrice des personnes les plus vulnérables et discriminées, nous vous proposons de vous engager à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel en soutenant les 5 priorités et les 16 recommandations qui en découlent. Donc en fait, j'ai oublié de vous dire que ce manifeste est envoyé à l'occasion des élections législatives et adressé aux candidats des prochaines élections. Donc premier point, 5 priorités. Donc premier point, pour une politique d'égalité réelle entre les femmes et les hommes. La prostitution s'inscrit dans une longue tradition patriarcale de mise à disposition du corps des femmes au profit des hommes. Droit de cuissage, viol, harcèlement sexuel, devoir conjugal, etc. Elle renforce la domination des hommes sur les femmes, en particulier la croyance que le corps des femmes est disponible et accessible. C'est un archaïsme qui représente un véritable obstacle à une politique progressiste d'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Réaffirmer sur l'ensemble du territoire l'importance de la politique publique de lutte contre le système prostitutionnel en l'inscrivant dans le cadre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc voilà, ça c'est une recommandation que font ces associations aux candidats, aux futurs candidats, donc pour avoir une réelle politique d'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Donc deuxième recommandation, donner les moyens humains et financiers à cette politique publique d'atteindre ses objectifs ambitieux. Et troisième recommandation, mener une campagne grand public sur les réalités de la prostitution et l'interdiction du recours à l'acte d'acte sexuel. Donc voilà, pourquoi ces recommandations sont essentielles, parce qu'effectivement, donc, la loi abolitionniste qui est passée est complètement encore bien trop méconnue du grand public. On n'en parle jamais nulle part dans les médias, donc il n'y a pas de volonté politique de l'appliquer. Donc évidemment, après, les pro-prostitutions peuvent dire que cette loi ne marche pas. Bah oui, elle ne marche pas parce qu'il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas eu assez de moyens humains et financiers. Effectivement, il n'y a pas l'argent qui a suivi, hein. Donc voilà, toutes les associations qui accompagnent les personnes, les femmes prostituées pour les parcours de sortie, etc., attendent, ont besoin d'argent et n'ont pas eu cet argent. Voilà. Bref, je continue. Deuxième priorité, rompre l'impunité des agresseurs et protéger les victimes. Aujourd'hui, l'État français ne donne pas les moyens humains et en formation aux services de police et de gendarmerie pour accueillir les plaintes des personnes prostituées et lutter efficacement contre le proxénétisme, notamment sur Internet. En France, le marché de la prostitution est contrôlé d'une part par des réseaux criminels transnationaux et d'autre part par des réseaux de proxénètes locaux de tailles diverses et au trafic souvent multiple. C'est également le cas du marché de la pornographie ou prostitution filmée. Quelle que soit leur organisation ou leur envergure, on y retrouve des faits de viols collectifs, avortements forcés, diverses formes de torture et de violences psychologiques. Depuis une dizaine d'années, les proxénètes utilisent massivement Internet pour recruter davantage de victimes, entre parenthèses y compris mineures, et toucher davantage d'acheteurs d'actes sexuels. L'achat d'actes sexuels constitue une violence sexiste et sexuelle en soi, à laquelle s'ajoutent les violences physiques, psychiques et sexuelles pouvant aller jusqu'au meurtre, exercées par les acheteurs et les proxénètes. Sur les 35 féminicides prostitutionnels de ces 10 dernières années, au moins 18 ont été perpétrés par des « entre guillemets clients », on n'aime pas ce mot, prostitueurs. 2 par des proxénètes et 12 qui restent non élucidés. L'achat d'actes sexuels est l'unique ressource financière du proxénétisme et de la traite des êtres humains. Je vais citer Rachel Moran, une survivante de la prostitution, qui dit « La prostitution n'est pas le lieu où opère le trafic, mais la cause du trafic sexuel. » Donc les recommandations de ces associations sont « Lutter plus fermement contre le proxénétisme, y compris sur Internet, et s'assurer que les victimes de prostitution puissent déposer plainte dans de bonnes conditions. » Renforcer les services de police et de gendarmerie pour qu'ils disposent des moyens techniques et humains suffisants pour protéger et démanteler les réseaux, y compris sur Internet, et s'assurer que la totalité des biens saisis soit affectée à l'accompagnement des victimes. Appliquer la loi interdisant l'achat d'actes sexuels, y compris via les outils de nouvelles technologies de l'information et de la communication, pour lutter contre cette violence sexiste et sexuelle et assécher les profits des proxénètes et des réseaux de traite des êtres humains, et n'accepter aucune dérogation à cette interdiction d'achat d'actes sexuels. Entre guillemets, l'assistance sexuelle pour personnes handicapées relevant de la prostitution. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, les lobbies pro-prostitution utilisent les personnes handicapées pour faire passer un assistanat sexuel qui en fait n'est rien d'autre que de la prostitution. Voilà. Et il faudrait aussi comme recommandation mener des actions d'information sur leurs droits auprès des victimes de la prostitution. Troisième recommandation, pour de vraies alternatives à la prostitution. Aujourd'hui, l'État français ne permet pas à toutes les personnes souhaitant sortir de la prostitution de le faire. Dans de nombreux départements, des femmes et des hommes souhaitant sortir de la prostitution ne peuvent pas accéder au parcours de sortie de prostitution par manque de moyens dédiés par l'État à la mise en œuvre de ce dispositif. Les commissions sont trop rares, les délais d'attente sont de plusieurs mois pour une prise en charge par une association. Lorsque leur demande peut être présentée, elle est parfois refusée, sur des motifs non valables au regard de la loi. Et lorsqu'elles y accèdent, elles sont maintenues dans une situation de précarité, avec une allocation mensuelle représentant moins du tiers du seuil de pauvreté, 330 euros. Donc les recommandations de ces associations sont de permettre à toute personne souhaitant sortir de la prostitution de le faire partout sur le territoire en réaffirmant un cadre volontariste et clair aux commissions départementales de lutte contre la prostitution et en donnant les moyens aux associations agréées d'accompagner toutes les personnes qui en font la demande. Permettre un accès effectif au logement, au titre de séjour, à une formation professionnalisante, à la protection et aux soins. Revaloriser l'allocation dans le cadre du parcours de sortie au niveau du RSA. Garantir l'accompagnement inconditionnel des personnes en situation de prostitution, y compris en dehors des parcours de sortie de prostitution. Quatrième recommandation. Pour une action urgente à l'encontre de la prostitution des mineurs. Il existerait en France entre 6 000 et 10 000 mineurs en situation de prostitution, recrutés par des réseaux de proxénètes, parfois exploités par d'autres jeunes du même âge. Ces jeunes victimes de la prostitution sont des cibles prisées des réseaux criminels et des entre guillemets clients prostitueurs en recherche de filles toujours plus jeunes. Les causes sont multiples. Si la précarisation de la jeunesse en est une, le renforcement des modèles commerciaux autour de la féminité, l'hypersexualisation et son corollaire masculin, le virilisme, tels qu'ils sont mis en avant dans la télé-réalité, les réseaux sociaux ou la pornographie jouent également un rôle majeur. Mais le premier facteur de maintien et de développement de l'exploitation sexuelle des mineurs est l'impunité quasi totale des clients prostitueurs de mineurs, presque jamais poursuivis et condamnés dans les procès de proxénétisme des mineurs. Alors, les recommandations sont les suivantes. Renforcer l'action de la protection de l'enfance en matière de prévention de la prostitution et d'accompagnement des victimes, y compris des jeunes majeurs. Poursuivre et condamner systématiquement les personnes qui achètent un acte sexuel auprès d'une mineure. Et développer massivement l'éducation à la sexualité. Aujourd'hui, l'État français ne se mobilise pas suffisamment pour prévenir cette violence sexiste et sexuelle auprès des jeunes de l'ensemble de la société. Cinquième priorité, pour une diplomatie et une aide publique au développement féministe et abolitionniste. La diplomatie française a formellement adopté le concept de entre guillemets, diplomatie féministe, initialement développé par la Suède, champion mondial de l'égalité femmes-hommes et premier pays à avoir interdit l'achat d'actes sexuels. Dans le cadre d'une stratégie conjointe avec le gouvernement suédois, la France a aussi posé en 2018 les bases d'une entre guillemets, diplomatie abolitionniste. Cette stratégie doit désormais être mise en œuvre plus concrètement dans les relations bilatérales, mais aussi dans les enceintes internationales. Malgré ses objectifs affichés, l'Agence française de développement n'apporte qu'un soutien limité aux associations de terrain de défense des droits des femmes et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, et n'a pas développé de soutien direct aux associations du Sud luttant efficacement contre l'exploitation de la prostitution d'autrui et la traite des êtres humains. Donc, comme recommandation, il faudrait rédiger à l'attention des ambassades et missions des instructions précises quant à la défense de la position abolitionniste de la France et de ses alliés dans les enceintes internationales. Il faudrait apporter un soutien direct aux associations de terrain du Sud intervenant auprès des personnes prostituées victimes de la traite des êtres humains. Voilà, donc c'était donc le manifeste des associations de terrain et survivantes de la prostitution agissant aux côtés des personnes prostituées qui est adressé donc aux candidats de l'élection présidentielle. Cette publication donc du collectif Abolition Porno-Prostitution. Une publication que j'ai trouvée donc sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de ce collectif, donc vous pourrez retrouver, et donc un collectif de survivantes de la prostitution, donc qui lutte pour l'abolition. Voilà ce qu'elles ont fait. Elles ont, en fait, elles luttent, donc elles n'arrêtent pas de publier, etc., contre les lobbies prostitutionnels. Et là, dernièrement, donc cette dernière publication que j'ai trouvée, bah, vous allez le comprendre, en fait, elles ont recensé toutes les violences inhérentes à la prostitution qu'elles ont, un peu comme le collectif contre les féminicides. C'est elles qui font ce travail, personne ne le fait, évidemment. Et du coup, voilà, en épluchant un peu tous les journaux, tous les médias, pour retrouver ce qui apparaît seulement comme fait divers, et bien pour les mettre en exergue, quoi, et les dénoncer. Donc voilà ce qu'elles disent, donc les survivantes du collectif Abolition Porno Prostitution, que je salue. Il y a des faits qui agacent certains. Certains, c'est les associations et collectifs proxénètes fédérés sous le symbole parapluie rouge, dont le Stras, Griselidis, Paloma, Médecins du Monde, Kabiria, Bad Boys, le Bus des Femmes, Acceptis, T, Past, Pétrolette, Autre Regard, Chaff, Les Roses d'Acier, Collectif des Femmes de Strasbourg-Saint-Denis, etc. J'ajouterais aussi dans les pro-prostitution Amnesty International, par exemple France, qui vient lui aussi d'écrire aux candidats pour dire que ils veulent dépénaliser le commerce du sexe, en fait. Ils veulent dépénaliser donc le système prostitueur, donc ils veulent abolir tout simplement cette loi. Voilà, donc je poursuis. Donc il y a des faits qui agacent certains, donc tous les collectifs pro-prostitution, car révélateurs d'une réalité que l'on veut masquer par intérêt politique. Cet intérêt est la volonté de faire de la prostitution un, entre guillemets, métier et spectacle comme un autre, avec la volonté de masquer qui ne se passe pas un jour sans une agression, une tentative de meurtre, un harcèlement sexuel, un viol. Au moment où nous écrivons cet article, 15 affaires de violences prostitutionnelles sont d'ores et déjà publiées dans les médias en seulement 20 jours. Voilà, donc elles ont recensé en 20 jours, c'était là, maintenant on est en mars, donc c'était à la fin de février, 15 affaires en 20 jours. Premièrement, affaire Jerem Star, Pascal Cardona, condamné pour corruption de mineurs et prostitution. Avec ce dernier, il a organisé 200 soirées entre 2012 et 2017 chez lui à Nîmes, où des personnes mineures étaient présentes, et diffusion de vidéos porno-criminelles. Deuxièmement, procès pour proxénétisme, le supplice de Juliette, 14 ans, prostituée de force et victime d'un avortement sauvage, c'était le 14 janvier. Troisièmement, pour rembourser leur dealer, ils deviennent proxénètes et prostituent deux femmes, condamnées à 2 ans de prison ferme pour proxénétisme aggravé. 4. Deux hommes ont comparu devant le tribunal correctionnel de Meaux pour avoir livré à la prostitution deux filles âgées de 12 et 14 ans. 5. Elle vide son sac et dit être menacée, parfois avec un fusil à pompe, battue, prostituée et séquestrée par l'homme qui est à côté d'elle. Elle a 20 ans. 6. Les surveillances répétées des forces de l'ordre ont permis de procéder à l'interpellation du proxénète présumé alors qu'il était accompagné de la victime de 20 ans dont il profite. 7. Deux filles dénoncent à Nice les deux proxénètes. L'un nie, l'autre avoue. 8. 21 ans, elle l'accuse de l'avoir obligée, via Internet, à poser nue, s'exhiber dans des vidéos sur un site. Elle affirme l'emprise de cet homme, dont le fantasme était, entre guillemets, de la violer. Il est relaxé, car, entre guillemets, elle est portée sur ce genre de choses. 9. 8 personnes ont été mises en examen jeudi dernier pour proxénétisme aggravé, une vingtaine de très jeunes filles, victimes dont la plus jeune venait d'avoir 13 ans. 10. Deux trentenaires et la propriétaire d'une maison organisent un réseau de prostitution de femmes migrantes. 6 à 7 femmes qui, entre guillemets, changent régulièrement et qu'ils vont chercher à l'aéroport. Proxénétisme aggravé. 11. Proxénétisme sur une mineure en Seine-et-Marne, 5 hommes arrêtés. Les mis en cause seraient tous des hommes d'entre 20 et 30 ans, résidant notamment en région parisienne. Elle subissait 3 à 4 viols par jour. 12. Un Allemand de 56 ans a été interpellé samedi dans le quartier du Port du Rhin, à Strasbourg, après avoir brandi une serpette devant des prostituées, menaçant de les égorger et de les manger. Il a été déféré mardi devant le tribunal correctionnel. 13. 5 hommes de 21 à 26 ans poursuivis pour proxénétisme aggravé. Ils ont comparu devant le tribunal de Beauvais le jeudi 13 janvier. 14. Un homme contraint à la prostitution. Un homme contraint à la prostitution sa compagne, âgée de 42 ans, et une amie, âgée de 22 ans, via des annonces en ligne. Il comparaîtra au tribunal le 2 février prochain pour proxénétisme aggravé. 15. Saint-Hilaire de la Côte, Isère. Un, entre guillemets, client n'aurait pas apprécié le tarif de la, entre guillemets, prestation. Il lui aurait craché dessus tout en brisant une fenêtre de son fourgon. Elle se défend avec une barre de fer. Le taux de mortalité y est 40 fois supérieur que la moyenne. Légitime défense. 16. Une mère et son fils, à la tête d'un réseau chinois, exploitaient des femmes chinoises via Internet et Airbnb. Ils prostituaient des femmes dans plusieurs villes de France, dont Nantes. Ils sont accusés pour proxénétisme aggravé. 17. Lille prostitution, sous couvert de massage thaï ou balinais, à l'audience, les deux proxénètes vont rejeter l'initiative sur les victimes de la prostitution, se contentant de dire avoir fermé les yeux. Leurs avocats plaideront, entre guillemets, l'absence de contraintes physiques ou morales. La honte. Voilà. Donc avec tout ça, ce manifeste et ces faits du collectif Abolition Porno Prostitution, je réitère le fait que non, la prostitution n'est pas la responsabilité des femmes. Non, la prostitution n'est pas le choix des femmes. Et que oui, la prostitution est une violence, une extrême violence. C'est un pilier du patriarcat. Et qu'il s'agit de viols tarifés. Voilà. Play de René Aubry. Et je reprends juste après. après avoir parlé de la prostitution, je vais parler de la pornographie, donc qui est en fait de la prostitution filmée et contre laquelle nous luttons aussi. Et une bonne nouvelle, c'est que toute l'industrie du porno français est mise en accusation. Et nous attendons justice pour les victimes de l'industrie proxénète porno criminelle. Donc c'est notamment l'association Oser le féminisme qui est très prenante dans cette lutte, enfin qui est très engagée dans cette lutte. Alors nous apprenons, donc voilà, c'est une publication que je relais d'Oser le féminisme. Justice pour les victimes donc de l'industrie, pardon, je reprends, de l'industrie proxénète porno-criminelle. Je viens de changer de micro, encore un petit problème technique parce que j'entends des sifflements dans le micro de gauche, donc voilà, le micro de droite n'a pas l'air de siffler, ouf, voilà. Nous apprenons la mise en examen de 3 hommes, 2 producteurs et 1 acteur, entre guillemets, pour viol aggravé, proxénétisme aggravé et traite des êtres humains. Ce sont les mêmes inculpations que pour les 4 pornocrates, dont Mathieu Lauré et Pascal Oppé, mis en examen en septembre 2020, tandis que 4, entre guillemets, acteurs sont également mis en examen pour viol dans cette même procédure depuis octobre 2021. L'omerta sur ces agissements, contraires à la dignité, à la dignité humaine, est en train d'être levée, ainsi qu'en témoigne l'article publié par Le Parisien le 10 février 2022. Je cite, l'enquête a révélé ainsi qu'une fois entrées dans le monde du X, ces filles étaient réduites à l'état d'objet par les producteurs, toujours en quête de scènes plus hard, et qu'elles servaient de monnaie d'échange au gré des tournages de la société, de l'un ou de l'autre. Un traitement inhumain que l'on perçoit dans les conversations entre les responsables du réseau, captés par les gendarmes. Tout était prétexte à détourner le consentement des actrices, qui, une fois qu'elles se rendaient compte qu'elles avaient été dupées sur les conditions de tournage, étaient rejetées. Au fur et à mesure des révélations, l'horreur quotidienne de l'industrie de la prostitution filmée, qui existe en raison de la demande de consommateurs, entre guillemets, clients de ces vidéos, est dévoilée. Ce sont des actes de torture, des viols filmés et tarifés sur des femmes vulnérables, du proxénétisme et de la traite d'êtres humains à grande échelle. C'est pourquoi, donc, le 21 janvier 2022, l'association Oser le féminisme, notamment, a signalé sur Pharos des vidéos de ses producteurs. Leur sentiment d'impunité est tel que les descriptions des vidéos font elles-mêmes état des violences mises en place. Ce sentiment d'impunité est renforcé par l'absence de réaction de la part de Pharos ou du ministère de l'Intérieur. Nous saluons néanmoins les travaux engagés par la Commission droits des femmes et du Sénat à ce sujet. L'industrie porno-criminelle voudrait nous faire croire que l'affaire du porno français n'était que l'affaire OP, mouton noir de la profession. Il n'en est rien. C'est toute l'industrie du porno français qui est mise en accusation, montrant encore une fois le caractère systémique du proxénétisme, des violences sexuelles et sexistes perpétrées dans la pornographie. Nous demandons justice pour les victimes et que la responsabilité criminelle de l'ensemble de l'industrie soit reconnue et ses auteurs sanctionnés, qu'ils soient acteurs, rabatteurs, producteurs comme diffuseurs. Nous soutenons la parole de ces femmes pour qu'enfin l'industrie porno-criminelle soit jugée pour ce qu'elle est, un système de traite, de violences sexuelles et de proxénétisme à l'échelle industrielle. In me.
I gave up everything. I raised your children. I swimmed against the stream. I walked every mountain. What is it that you want from me? Is it my soul? Is it my body? What is it that I need to do so you can set me free? I am your daughter, your wife and a mother. I am your sister, I am your lover. I am your daughter, your wife and a mother. I am no quitter, I am a fighter. I want the power that you took away from me. understood, and it makes me lonely. I am nobody's fool, just know that you need me. What is it that you want from me? Is it my soul? Is it my body? What is it that I need to do so you can set me free? I am your daughter, your wife and a mother. I am your sister, I am your lover. I am your daughter, your wife and a mother. I am no quitter, I am a fighter. I want the power that you took away from me. I walked every mountain. What is it that you want from me? Is it my soul? Is it my body? What is it that I need to do so you can set me free?
Alors, du coup, je vais vous parler aussi d'un autre sujet qui est en lien aussi en réalité, donc avec l'exploitation, qui est enfin un parallèle entre la prostitution, donc c'est l'exploitation sexuelle des femmes, et en fait la GPA, donc la gestation pour autrui, donc l'exploitation reproductive des femmes, contre laquelle on lutte. Et voilà, c'est, il y a beaucoup de parallèles d'ailleurs entre la GPA et la prostitution. Et il s'agit là aussi d'esclavage, d'esclavagisme opéré sur les femmes. Voilà, donc je vais juste vous donner une petite actualité donc, par rapport à cette lutte contre la GPA, qui signifie gestation pour autrui, mais... Donc qui est interdite en France, fort heureusement, mais bon, vous allez, j'en parle aussi assez régulièrement dans cette émission. Donc il y a notamment un collectif, la SIAMS, qui s'occupe de lutter contre la GPA, parce que on n'est pas à l'abri qu'il y ait une GPA peut-être altruiste qui arrive en France, vu que les lobbying sont très très puissants. Et que les médias, même en France, font l'apologie finalement. Il y a une énorme propagande par rapport à ça. Donc voilà, sous l'influence des lobbying, qui sont souvent les mêmes en fait, hein, les lobbying porno prostitutionnels et les lobbying pro GPA sont tout à fait liés. Voilà, donc je pense aussi à l'Ukraine où donc la GPA est fortement existe fortement malheureusement, et on trouve encore en ce moment donc des personnes qui arrivent encore à tirer profit de la guerre et de la misère, qui arrivent encore à exploiter le corps des femmes pauvres à des fins de reproduction, qui arrivent encore à voler le bébé qui est réduit à une marchandise à coût de quelques milliers d'euros, et qui arrivent encore donc à aller là-bas en Ukraine pendant la guerre et à s'envoler ensuite à rentrer tranquillement chez eux, en abandonnant la mer. Ça se passe, hein, ça s'est passé. Donc je vous le dis parce que c'est une actualité là pendant cette guerre. On a vu des couples français et de plein de pays en fait, souvent d'hommes gays ou des couples hétéros, en tout cas qui rentraient chez eux tout fiers en disant super, on a ramené notre bébé. Voilà. Donc moi, comme une amie qui s'appelle Betty Lajgar, que je salue parce que je vais bientôt la rejoindre au Maroc et passer le 8 mars au Maroc avec elle, donc une grande activiste marocaine qui vit entre le Maroc et Paris et qui se déplace dans le monde entier. D'ailleurs, vous pouvez trouver un podcast où elle était venue dans cette émission pour expliquer tout ce pourquoi elle lutte et tout ce qu'elle a fait. Enfin voilà. Donc je suis d'accord avec Betty Lajgar qui dit que ces personnes sont des esclavagistes. Voilà. D'ailleurs, c'est elle qui a écrit cette phrase, et elle dit « Et s'envoler vers d'autres cieux, abandonnant la mer sous les bombes avec les seins pleins de lait, ses saignements et se remettant de l'accouchement dans un contexte de guerre. Louer une femme et acheter un bébé pour réaliser leur caprice bourgeois de posséder un enfant. Cela porte un nom, traite des femmes et trafic d'enfants. Le tout sponsorisé par les médias. Toute honte bue. » Voilà. Donc, toujours à ce même propos, du coup, je vous relais aussi... Donc un texte qui a été écrit pour dénoncer l'apologie qui est faite donc de la GPA dans les médias français. Donc c'est un texte qui a été écrit par collectif COERP, par Nicole Atea, par Marie-Jo Bonnet, Anna Luana, Stoïcea Deram, entre autres. Voilà, donc je vous le lis. Si de nombreuses émissions sur le service public font régulièrement l'apologie de la GPA et le forcing social pour l'autoriser en France, la soirée du 9 février en a été le couronnement. Entre le film issu du livre de Marc-Olivier Fogiel, une discussion dans laquelle quatre intervenants pro-GPA militants étaient opposés à une pauvre juriste qui essayait de soutenir l'importance de la loi française, et enfin la réédition du film « Les enfants de la GPA et de la PMA », si mignon et si intelligent, les téléspectateurs ne pouvaient sortir de cette moulinette idéologique que pro-GPA et scandalisés de son interdiction en France. Donc je sais aussi que pareil, ce Marc-Olivier Fogiel avec son livre, son film, etc., il est passé aussi à C'est à vous. Enfin bref, il est passé dans toutes les émissions possibles, quoi. Alors, le service public se fait donc ouvertement le défenseur et le promoteur de la GPA. Aucune réflexion objective et rationnelle ne semble pouvoir mettre un bémol à cet engouement médiatique. Pas même un minimum de débats contradictoires. Le journaliste avait beau dire que cette pratique divisait la société et avait des opposants, nous ne les avons pas entendus. Ce qui signifie que le service public se fait ouvertement le défenseur et le promoteur de la GPA. Est-ce son rôle ? Les personnes qui se sont opposées à la GPA ont des arguments. Arguments médicaux concernant la santé des femmes et des enfants. Argument juridique qui ne se limite pas à se présenter en quelques minutes par une politique courageuse à laquelle on a sans cesse coupé la parole. Argument éthique qui ont fait l'objet d'un livre récent publié chez Odile Jacob, Les marchés de la maternité, c'est le titre du livre, qui n'a même pas été présenté par le journaliste. En revanche, ceux de M. Ofogiel et de J. Courduris l'ont été largement. Un service public se doit d'être impartial et de donner voix à tous les interlocuteurs sociaux qui réfléchissent sur une pratique sociale. En lieu et place de cela, les journalistes deviennent des militants d'une cause qu'ils nous vendent. Avec l'accord ou sous la demande de quel pouvoir politique, on se le demande. Et ils ont un pouvoir immense pour y parvenir. Cette soirée, on est le témoin. Le film a très peu montré les mères porteuses et ce qu'elles vivent. Il y aurait beaucoup à dire sur le contenu de cette soirée. Le film a très peu montré les mères porteuses et ce qu'elles vivent. Il était centré sur les mouvements psychiques des commanditaires de la GPA et leurs hésitations. Quels merveilleux futurs parents qui se posent tellement de questions sur leur désir d'enfant. Mais bien peu sur les mères porteuses. On nous a montré une famille agricultrice demandeuse pour nous démontrer que ce n'est pas une pratique pour riches. Si l'une des intervenantes de la discussion était agricultrice, on peut se demander combien d'agriculteurs recourent à ce type de pratique. Ce ne serait donc pas des riches qui exploitent les pauvres ou des moins riches, ce qui dans l'ensemble est parfaitement faux. C'est dans la quasi-totalité des cas des femmes de conditions socio-économiques inférieures qui portent des enfants pour des plus riches et pour très riches. Dans les GPA commerciales, où tous les désirs des commanditaires sont pris en compte. Des études montrent que toutes ces mères porteuses le font pour de l'argent. Sans argent, elles ne le feraient pas. Le réalisateur a choisi l'exemple du Canada, mais même dans ce pays où la GPA dite éthique est pratiquée, les avocats montrent que les femmes perçoivent 40 000 dollars canadiens, comme l'écrit C. Trilling, spécialiste de la GPA au Canada. Et c'est 10 000 à 15 000 dollars pour l'ovocyte. On nous a montré des mères porteuses qui semblaient dans une situation sociale sans problème. Mais au Canada comme aux États-Unis, les classes moyennes ont de plus en plus de difficultés économiques et les femmes peuvent recourir à ces pratiques pour financer des projets familiaux importants. L'altruisme est même inscrit dans les contrats. Sans légitimation comme la foi, qui devient une nouvelle motivation pour certaines, entre guillemets tellement heureuses de donner la vie, ou l'altruisme, comment pourrait-elle être mère porteuse ? Elles ont besoin de ces légitimations sociales pour avoir bonne conscience et être valorisées socialement. L'altruisme est même inscrit dans les contrats. Mais la foi catholique utilisée comme légitimation de l'abandon d'enfants peut-elle être crédible alors que la religion l'interdit ? Sans l'altruisme, qui est une fiction à laquelle elles croient pour certaines ou une hypocrisie pour d'autres, ces femmes ne seraient que des mères mercenaires vendant un enfant. Alors on ne viendrait pas nous chanter les louanges de cette pratique. Les femmes indiennes ne disent pas qu'elles le font parce qu'elles sont heureuses de donner un enfant à des commanditaires occidentaux. Elles le font pour la survie de leur famille et elles se sentent honteuses d'avoir abandonné un enfant. Qui dit le vrai ? Peut-on vraiment être heureuse de vivre une grossesse avec tous les désagréments, les interdits nombreux mis en place dans une GPA ? Les risques liés au PMA utilisé, les liens qui se nouent inévitablement avec le fœtus, pour finalement abandonner un enfant si on n'en a pas des compensations financières attractives. Et comment un enfant va vivre cette rupture brutale avec la mère qui l'a portée sans pouvoir vivre la période dyadique qui lui est nécessaire après la naissance pour médier son entrée dans le monde ? Le priver de la relation à sa mère durant cette période de la vie, réalise une véritable maltraitance. Oui, l'argent reste le moteur de la GPA. On nous a présenté un petit film sur l'Ukraine comme un repoussoir, mais les Occidentaux sont très heureux d'aller dans ces pays qui pratiquent des GPA à bas coût. Bon, je vous en parlais tout à l'heure justement pour vous dire que même pendant, alors qu'il y a la guerre, ça continue. Quel que soit la situation des mères porteuses et des enfants. Et nombreux sont encore les couples occidentaux qui vivent dans des pays où la GPA éthique est légale, mais qui préfèrent se rendre dans des pays où les coûts sont moindres. Nous attendons du service public l'organisation d'une soirée de controverse à cette publicité mensongère. Non, la GPA n'est pas un jardin de roses pour les mères porteuses et pour les enfants. Oui, l'argent reste le moteur de la GPA et la partie la plus importante de la somme convenue entre commanditaire et mère porteuse est donnée à la remise de l'enfant. sans argent, pas d'enfant, comme dans toute tractation commerciale. C'est donc bien une vente d'enfant. Si l'enfant est porteur d'un handicap, il est le plus souvent refusé par les commanditaires qui l'abandonnent dans les orphelinats locaux. L'exploitation du corps reproducteur des femmes, leur réduction à leur fonction de gestatrice, l'effacement des mères est inacceptable dans une société qui devrait protéger les droits des femmes et celui des enfants à pouvoir naître entouré de sa mère pour faire une entrée protégée dans le monde. Donc du coup, il me reste donc un quart d'heure. Et donc je vais choisir un texte d'analyse de Francine Sporanda, qui est une très très grande féministe que j'admire, que j'estime, qui est écrivaine aussi, et qui écrit des livres, des textes, qui est aussi abolitionniste. Et voilà, donc je vais pas pouvoir vous lire toute cette publication, parce que chaque texte qu'elle écrit est formidable, mais simplement est très longue. Ce texte entier fait 10 pages, donc je vais pas avoir le temps de lire les 10 pages, c'est pas évident de choisir. De toute façon, je le mettrai dans les références du podcast, et du coup, vous pourrez vous-même, s'il vous intéresse, lire ce texte en entier. Lire donc Francine Sporanda. Le titre, c'est, il parle de lui-même aussi, « Le patriarcat, une religion d'inversion ». La notion d'inversion patriarcale est un concept instrumental de l'analyse féministe. Le fait que le discours patriarcal pullule d'inversion a été signalé par plusieurs théoriciennes féministes majeures. Marie Daly précise que le patriarcat est une religion d'inversion. Nous vivons dans une société d'inversion. Sonia Johnson signale que ce qu'elle a appris au sujet du patriarcat, c'est qu'il ment constamment et que ses mensonges sont l'exacte inversion de la vérité. Voici quelques exemples d'inversion patriarcale, liste non exhaustive. Donc il y en a plein, du coup j'en choisis. Les femmes parlent trop alors que dans un groupe mixte, les hommes parlent plus que les femmes, les interrompent, mansplainent, utilisent toutes sortes de stratégies pour monopoliser la parole, comme le met en évidence l'étude de l'université de Princeton, The Silent Sex. Les femmes, donc celui-là me parle énormément, je ne sais pas si vous, mais moi c'est vraiment celui-là me parle. Les femmes sont incapables de contrôler leurs émotions. Elles sont hystériques. Alors que les hommes sont sujets à des accès de colère, de jalousie, etc., qui peuvent aller jusqu'à la violence et au meurtre, et reconnaissent eux-mêmes qu'ils ne les contrôlent pas. Ce manque de contrôle étant censé excuser ces violences. En fait, il s'agit d'un double standard. Le fait d'être dominé par ses émotions est réprouvé chez les femmes, la colère en particulier, leur est interdite. Par contre, quand les hommes se laissent aller à cette émotion virile, c'est vu comme une affirmation de soi, valorisante, et signale leur appartenance à la catégorie dominante. Corollaire de l'affirmation précédente, les femmes sont irrationnelles car dominées par leurs émotions. Corollaire de l'affirmation précédente, les femmes sont incapables d'être des leaders parce qu'elles sont irrationnelles et émotionnelles. Et donc j'arrive à cette inversion-là, pour moi la capitale inversion. Ce sont les victimes, entre guillemets, femmes violées, femmes battues, etc., et plein d'autres choses, qui sont la cause des violences qu'elles subissent parce que ce sont elles qui cherchent et provoquent des hommes innocents. Ensuite, je vous redis quelques autres inversions. Les femmes sont possessives et jalouses, alors que ce sont très majoritairement les hommes qui tuent quand ils sont trompés ou quittés. Ensuite, autre inversion, la criminalité masculine est étant souvent expliquée, excusée par des traumatismes d'enfance. Les responsables toutes désignées sont habituellement les mères, castratrices, abandonnantes ou trop fusionnelles, alors que ce sont les pères, beaux-pères et autres membres masculins de la famille qui sont les principaux auteurs des violences intrafamiliales commises sur les enfants. Inceste, violences physiques, etc. Autre inversion, les hommes sont protecteurs des femmes, alors que les femmes sont beaucoup plus souvent agressées par les hommes que protégées par eux. Et des inversions plus récentes encore, Alors, elle cite, bon, le freudisme est une catalogue d'inversions. Voici quelques échantillons. Donc, chez les femmes, selon Freud, le sens de la justice est peu développé. Dixit Freud. Alors qu'en fait, on sait qu'elles ont toujours été nombreuses, voire majoritaires, dans les mouvements de justice sociale, de défense des droits des opprimés, l'abolitionnisme, l'anti-esclavagisme, l'antispécisme, Black Lives Matter, etc., etc. Alors, définition de l'inversion. Le schéma de l'inversion est évident. Il s'agit d'affirmer qu'une chose est exactement le contraire de ce qu'elle est. La soumission est empouvoirante. Ah ben, ça me fait penser aux prostitutions, voilà. C'est ça qu'ils disent. L'esclavage, c'est la liberté. De tels énoncés visent à remplacer la réalité visible, telle que perçue par l'auditeur du message, par une réalité alternative favorable aux intérêts des dominants, qui en est l'exacte antithèse. Le but recherché étant que l'individu visé ne fasse plus confiance à sa propre perception, mais à un discours extérieur autorisé. Comme l'avait noté Orwell, l'inversion est un instrument essentiel au contrôle idéologique des dominés. À tel point que la fréquence des inversions dans un discours est indicative de son caractère idéologique. Par l'utilisation de ce procédé rhétorique, les dominants s'approprient la représentation du réel et, en la présentant comme vraie et universelle, imposent socialement la vision particulière qu'ils en ont, alors qu'elle n'est que l'expression subjective de leur conscience de classe. Alors, les messages codés des inversions patriarcales. L'inversion patriarcale a généralement un contenu prescriptif, normatif, implicite. Il s'agit pour les hommes de dissuader les femmes d'accéder à des activités essentielles à l'exercice de leur domination, qu'ils entendent de ce fait se réserver strictement. En clair, il s'agit de refuser aux femmes toute forme d'accès au pouvoir, prérogatives et privilèges masculins, de faire en sorte qu'elles ne marchent jamais sur les plates-bandes des hommes et soient totalement exclues des domaines qui sont leur chasse gardée. L'inversion patriarcale énonce ce que les femmes peuvent faire et ne pas faire. Elle réaffirme la division sexuée des rôles sociaux. C'est un rappel à l'ordre genré. Naturalisation de la domination. L'inversion est ainsi porteuse d'un message dissuasif destiné aux femmes, mais celui-ci est subtil. Elle ne dit pas explicitement que les hommes ne veulent pas que les femmes conduisent ou entrent dans les professions masculines ou soient au poste de commande. Elle dit seulement que les hommes en sont incapables. Ce n'est pas que les hommes ne veulent pas, c'est que les femmes ne peuvent pas. C'est la nature qui veut ça. Fort heureusement, la nature est bien faite. Elle a commandément doté les femmes des aptitudes aux tâches, soins des enfants et des hommes, etc., que la société exige d'elles. Car pour préserver la domination masculine ou raciale de tout questionnement, il est impératif d'arriver à persuader les dominés que la supériorité de leurs dirigeants et leur propre infériorité ne sont pas socialement construites et résultent de la mise en œuvre d'un projet politique, mais qu'elles ont leur source dans des différences biologiques, donc inchangeables. C'est le postulat qui est au fondement du racisme comme du sexisme. Et la figure du despote masculin est remplacée par celle de l'homme protecteur, soucieux d'épargner la fragilité de ces délicates créatures. La domination existe pour le bien des dominés. Quotidiennement, l'inversion rappelle aux femmes que la domination masculine est à la fois légitime et inévitable. Cette naturalisation de l'oppression entraîne une double incapacité pour les dominés de la renverser. Dans la mesure où la domination masculine se dissimule dans un brouillard d'illusions et de mensonges, la confusion créée dans l'esprit des dominés, est telle que beaucoup ont internalisé la naturalité de cette domination et ne sont même pas conscientes de son existence. Ce qui exclut a priori toute possibilité de la contester. On peut agir sur la réalité, mais pas sur une illusion. On peut seulement révéler une illusion. Se dégage une image de la féminité qui réaffirme l'infériorité rédhibitoire des femmes, postulée depuis des millénaires par la misogynie patriarcale. Mais c'est aussi inféré que les hommes possèdent toutes les qualités dont elles sont dépourvues. Systématiquement péjorative pour les femmes et méliorative pour les hommes, l'inversion patriarcale réaffirme constamment l'infériorité des unes et la supériorité des autres. Un cas particulier que j'ai souligné effectivement, que les féministes connaissent bien, est le victim blaming, l'inversion de la responsabilité ou inversion accusatoire, dans le traitement du viol par le discours patriarcal. Ce sont les femmes et filles violées qui poussent les hommes au viol par leur comportement ou leur façon de s'habiller. Elles ont provoqué le violeur. Et les violeurs piégés par les agaceries de ces femelles séductrices sont ceux qui sont à plaindre. Leur vie est détruite, leur réputation saccagée. On retrouve ici le schéma coup double de la projection appropriation vue plus haut. La culpabilité des agresseurs est projetée sur leurs victimes, justifiant ainsi leur oppression, et eux sont victimisés. On voit que le discours patriarcal ne s'embarrasse pas de cohérence et n'hésite pas à contredire ses propres stéréotypes. L'activité sexuelle en particulier, comme masculine, opposée à la passivité féminine, si cela permet d'exonérer les agresseurs sexuels de toute responsabilité. La confusion sémantique que véhicule l'inversion accusatoire vise ainsi, en interversant les figures de l'opprimé et de l'oppresseur, à produire une confusion des valeurs. Il s'agit de faire perdre leurs repères moraux aux individus ciblés, de les habituer à accepter l'inacceptable, de les insensibiliser à l'injustice et à l'oppression, de les conditionner à un relativisme moral tel qu'ils et qu'elles en arrivent à considérer crimes et violences comme légitimes quand ils sont commis par les catégories au pouvoir. En particulier, il suffit de faire en sorte que l'image des dominés soit détestable pour que l'usage de la plus extrême violence envers eux apparaisse justifié. Ceux qui accomplissaient la propagande antisémite avant la Deuxième Guerre mondiale pour les Juifs et de nos jours la propagande pornographique pour les femmes. Ce brouillage des repères moraux des citoyennes étant la condition préalable à toute prise de pouvoir autocratique. L'inversion peut être aussi un oxymore. Deux faits contradictoires sont affirmés dans la même phrase. La soumission est empouvoirante et la paix c'est la guerre et l'homme est une mère. L'effet produit est une destruction du sens, une absurdité est assénée comme une évidence, une impossibilité logique est présentée comme un fait incontestable. Le résultat étant une sidération, un blocage de la possibilité même de penser. Le raisonnement se trouve court-circuité. Quels sont les objectifs du discours inversif? En proposant une version de la réalité contraire à ce que les individus ont sous les yeux, en les habituant peu à peu à accepter sans sourciller l'incroyable et l'illogique, le discours inversif vise à tester et développer leur crédulité. Leur subordination exclut par définition toute reconnaissance de leur qualité de sujet, pensant et connaissant, tandis que le groupe dominant s'attribue l'exclusivité de cette position de sujet et parle au nom des dominés qu'il exclut de la parole. Les hommes ont écrit d'innombrables traités sur la femme, sa psychologie, sa sexualité, ses maladies, son rôle social, son mystère, etc. Mais l'inverse n'existe pas. Nommer et définir sont l'apanage des dominants. Le fait que des énoncés aussi radicalement contraires à la réalité soient largement acceptés comme véridiques procède évidemment de l'autorité détenue par l'énonciateur. Comme le dit Sonia Johnson, la réalité est une construction internalisée, définie et contrôlée par le groupe dominant. Le langage crée la réalité. Celui qui détient le pouvoir de nommer détient le pouvoir de faire exister. Et comme les mots appartiennent aux dominants, intégrer leurs éléments de langage, c'est intégrer leur pensée. Et ce formatage de la pensée par le langage s'opérant à un niveau infraconscient, non seulement on pense pour vous, mais vous pensez que c'est vous qui pensez, un individu ainsi colonisé mentalement par des pensées réflexes est inconscient d'être manipulé et il est persuadé d'être libre. « C'est mon choix, dit-elle plutôt. » Inverser l'inversion. Voilà, et j'arrive donc à la conclusion parce que là, je vois qu'il faut que je termine. Comme le rappelle Maria Mies dans son livre « Patriarchy and Accumulation in the World Scale », le patriarcat est un système de domination des hommes sur les femmes, instauré à l'origine par la violence directe et la contrainte physique, auquel se substitue peu à peu, mais seulement en partie, la violence institutionnelle, famille, État, etc. Le but de ce système de domination est de s'approprier leur corps, leur capacité reproductive, leur sexualité, leur travail et les produits de ce travail. La colonisation de la catégorie des femmes par celle des hommes est le prototype d'une autre institution patriarcale et capitaliste fondatrice, l'esclavage. Et les femmes ont été les premières colonisées. Et le lieu de cette spoliation, est essentiellement le couple et la famille. La dominance va de pair avec la non-productivité, puisqu'on est dominant par le fait même de s'approprier ce que produisent les catégories productrices femmes, colonisées, prolétaires, salariées, etc. Les prolétaires et colonisés de sexe masculin reçoivent de la classe dominante en échange de leur propre asservissement le droit d'asservir les femmes, mais uniquement les femmes de leur classe, Un ouvrier est soumis à celui qui occupe la place du père dans son entreprise, le patron, et à ses agents d'exécution. Mais dans sa famille, c'est lui qui occupe cette place. Et en retour de l'autorité patronale et étatique qu'il acceptait, l'État n'imposait autrefois aucune limite à son autorité sur sa femme et ses enfants. Ce caractère intrinsèquement prédateur, parasite et exploiteur de la catégorie dominante, le « entre guillemets sale petit secret » du patriarcat doit rester secret autant que possible. Et c'est là qu'intervient la violence symbolique du discours inversif, dont la fonction est d'opérer une positivation systématique de cette négativité fondatrice. Pourtant, les individus que l'histoire et les médias héroïsent sont habituellement des sociopathes, multimilliardaires, rapaces, conquérants brutaux, dictateurs, massacreurs, dont les millions de morts font passer les serial killers pour des amateurs. Je termine. On colonise des populations entières et on affirme que c'est pour les libérer et les éduquer. L'esclavage, c'est la liberté. On envahit des pays et on prétend que c'est pour y rétablir l'ordre. La guerre, c'est la paix. On affirme que la sexualité est inconditionnellement libératrice pour les femmes pour qu'elles soient plus complètement soumises aux exigences sexuelles masculines. On déclare la soumission BDSM empouvoirante pour les convaincre de se laisser torturer. On légalise la prostitution et le proxénétisme pour pouvoir les taxer et on déclare que c'est pour protéger les prostituées, etc. Instrument essentiel de contrôle social, l'inversion patriarcale vise à cacher qu'en patriarcat, le monde marche sur la tête. Il faut opérer un renversement des valeurs, mettre le monde à l'envers pour dominer. En actant, par le langage, la transmutation de l'agresseur en victime, du parasite en producteur, du prédateur en protecteur, elle est le masque sous lequel le patriarcat dissimule son imposture fondatrice. Si Orwell, socialiste convaincu, a discerné et analysé son rôle central dans le discours totalitaire, personne, sauf quelques féministes, n'a remarqué que ce dispositif omniprésent de la novlangue tel que décrite dans 1984 est également central dans le discours patriarcal, au service d'objectifs identiquement de contrôle et d'asservissement. « Newspeak is male speak », a dit Marie Daly. Peut-être parce que les hommes ont toujours été beaucoup plus prompts à repérer et dénoncer l'asservissement des individus de sexe masculin que celui des femmes.
Passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Nous fous, nous femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, asservis, humiliés. Les femmes achetées, vendues, violées.